En ce sens que le monde étant création devenue nature, et les trois termes étant permanents, création, devenir de et nature, hein, eh bien, il est bien évident que ce n'est pas au même niveau, et ce n'est pas concernant les mêmes modalités d'être que le déterminisme est souverain ou la liberté est souveraine. Vous comprenez ? Bon, et alors, l'exemple de l'être, de la façon d'être, qui est expérimentalement ben, cette identité du monde ainsi décrite, pour la pensée juive, c'est l'homme. C'est l'homme qui est à la fois. C'est l'homme qui est par excellence cet être qui est à la fois nature devenue nature et création restée création. D'un côté par son corps qui est soumis à la détermination de la nature et de l'autre côté par sa conscience, son âme, sa vie intérieure qui est liberté pure et donc création pure. C'est comme ça d'ailleurs que nous commençons le rituel du matin. Vous voyez, cette catégorie de laquelle je suis en train de vous parler aujourd'hui, du Minhag HaOlam, de la création de nature, eh bien, nous permet de considérer ce fameux problème de l'opposition, de l'antinomie, entre la notion de liberté et celle de détermination de façon tout à fait autre. Pour schématiser cela, je crois qu'on pourrait le dire de la façon suivante. Que loin de s'opposer, ces deux notions se conditionnent l'une l'autre. Comme nous allons voir d'ailleurs dans le texte biblique, c'est pour que la liberté de la personne soit effective que le monde dans lequel elle est située est déterminé. C'est le déterminisme du monde extérieur, si vous voulez, qui permet la liberté de la personne. Si nous vivions dans un monde indéterminé, la liberté serait illusoire, inefficace et inemployable. Dans un monde sans stabilité dans l'ordre des phénomènes, la liberté serait une déréliction, comme disent un délire. Voilà. Je vous donnerai tout à l'heure d'ailleurs des indications, enfin, des illustrations anthropologiques, ethnologiques même, de cette notion, et sur laquelle il faut bien réfléchir. C'est-à-dire, loin d'être un problème pour la pensée juive, cette coexistence des deux expériences, de la détermination et de la liberté, a été au contraire un enrichissement. Hein? La détermination, c'est l'explication de la possibilité de la liberté comme efficace, hein? De la liberté comme réelle. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Si la personne humaine était située dans un monde non régi, non soumis à des lois de stabilité des phénomènes, il n'y aurait pas possibilité de penser l'expérience de la liberté. On serait en plein délire, et d'ailleurs en pleine angoisse, en pleine panique. Hein? Vous savez, très bien, c'est une loi psychologique fondamentale, hein, que la réaction angoisse de la conscience procède d'une expérience d'indétermination. Là où il n'y a pas de sécurité, l'insécurité sécrète l'angoisse. Et ça a été essentiellement l'expérience de la pensée magique. Enfin, la pensée magique qui est incapable de se représenter le monde sous forme de nature et qui par conséquent est perpétuellement dans l'angoisse, hein? dans la terreur, dans la panique. Hein? Bon, alors il y a des raisons très précises, enfin que les sciences spécialisées étudient, pour quelles raisons la pensée magique est incapable de se représenter le monde dans l'ordre de la nature, hein? Mais en tout cas, la conséquence qui apparaît est très claire. D'où la caractéristique de la pensée magique. C'est une pensée existentielle plus, hein, parce que chez eux c'était sincère l'existentialisme. Hein. Eh bien, c'est la pensée angoissée. C'est l'expérience de la peur. Hein, la conscience magique est dans la peur. Elle était dans la peur par rapport à la non-stabilité des phénomènes matériels de la nature. L'homme contemporain est dans la peur à cause de la non-stabilité des phénomènes humains, des phénomènes sociaux. C'est-à-dire que l'expérience est très analogue, pas, mais vous voyez, cet exemple nous montre bien cela. C'est que le fait que le monde, en ces phénomènes, soit stabilisé dans l'ordre des choses qu'on appelle le Minhag HaOlam, c'est non pas l'échec à la liberté, c'est la condition de la possibilité d'effectuation de la liberté de la personne. Alors vous voyez dans quel monde dans quel type de monde intellectuel la pensée juive évolue. C'est absolument, comment dire, autre que le monde des catégories habituelles, des problèmes tels qu'ils se posent aux penseurs de la culture générale. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que tel ou tel penseur de la culture générale n'ait eu intuition de ces choses-là, vous comprenez ? Mais c'est toujours sous forme d'hypothèse d'école et très individuelle, alors que pour nous les juifs, c'est la tradition d'un peuple, ce qui est tout à fait différent. C'est une manière d'être, pas ? Et non pas des hypothèses d'école. Bon. Voilà donc la première, illustration que je voulais vous donner de ce problème. Oui. Je crois que je devine votre question, mais ce n'est pas suffisamment explicite. Qu'est-ce que vous avez demandé ? Comment faire que la liberté soit efficace même dans le phénomène social ? Qu'est-ce que vous voulez vous demander ? Mais il faut d'abord... Effectivement, à partir d'un certain moment, dans le développement de la culture occidentale, on a découvert le phénomène social. Hein? De la même façon qu'à un certain âge, on a découvert le phénomène psychique, finalement, on a fini par découvrir le phénomène social en tant que phénomène. Hein? Et c'est donc l'époque de la naissance et puis de la diffusion de la sociologie comme telle, hein? Et vous savez qu'actuellement, nous sommes dans une ère sociologique. Il n'y a, pour l'homme contemporain, il n'y a d'évidence de sagesse que celle des sociologues. Vous comprenez ce que je veux dire ? La problématique de la conscience contemporaine est préoccupée, son souci essentiel. Mais bon, je ne sais pas si les choses sont claires pour tous ceux qui s'occupent de sociologie. Il me semble qu'il y a une espèce de tohu-va-bohu effroyable. Encore, enfin, on est encore au stade de la découverte du phénomène. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, attendez. Alors, le problème que vous posez, c'est le suivant. Il ne peut y avoir de stabilité de la conscience, de liberté réelle, il ne peut y avoir de difficile liberté, n'est-ce pas ? C'est exactement le thème de ce livre de M. Lévinas, n'est-ce pas ? Que pour quelqu'un qui connaît et pratique et effectue sa vie selon les lois authentiques du phénomène social, qu'on appelle dans la tradition juive la halakha, n'est-ce pas ? Vous comprenez ? Quel est le problème ? L'homme contemporain est occupé à essayer de découvrir quelles sont les lois véritables qui régissent le phénomène humain, de telle sorte de faire que la société se conduise d'après ces lois, pour que l'homme moderne puisse sortir de cette angoisse magique quant au phénomène social. C'est ça le problème. Bon. Alors il est bien évident que cette angoisse non plus n'a pas été connue par la tradition juive. D'ailleurs, il y a strictement aucun existentialisme, ni conscience tragique, ni existentielle du type littéraire contemporain, malgré les apparences, n'est-ce pas, dans la tradition de conscience juive, précisément parce que cette tradition disposait de la halakha pour les phénomènes sociaux aussi. Vous savez d'ailleurs que l'essentiel du Talmud, le gros plan du Talmud, c'est les lois concernant le phénomène social. C'est Baba Msia, Baba Kama, Baba Batra. Oui, votre question était très pertinente. Oui.
Est-ce qu'il n'y a qu'une conscience juive pour comprendre que... Bon, enfin, est-il sûr que la haute pensée, par exemple occidentale, plus particulièrement américaine, ne soit pas pleinement consciente de cette notion de liberté ? Et en dehors d'une liberté,
écoutez, j'en sais rien, je ne comprends pas très bien ce que vous appelez par haute pensée, notamment américaine. Je ne sais pas si c'est eux qui sont en haut, mais enfin, j'en sais rien. Je ne crois pas, ça, mais enfin, c'est un autre problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est évident, voilà, l'intuition, n'est-ce pas, de ces données ait été connue par tel ou tel penseur, même contemporain, qui puisse se déceler dans tel ou tel expression dans telle ou telle analyse, telle ou telle contemporaine, même sociologue, pourquoi pas. Mais la grande différence, n'est-ce pas, c'est que du point de vue de la problématique de la culture générale, il s'agit d'hypothèses, hein, et alors que et d'hypothèses à l'échelle individuelle, alors que pour nous, il s'agit d'une façon d'être, il s'agit de la tradition d'un peuple. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a là une différence de nature absolue. Enfin, on ne peut pas découvrir ce que c'est que les Juifs, Israël, si on ne découvre pas cela. Les Juifs, ce n'est pas un ensemble de professeurs et leurs élèves, ce n'est pas un ensemble de bibliothèques et leurs bibliothécaires, ce n'est pas un ensemble d'hypothèses et de leur vérification plus ou moins réelle, c'est un peuple. C'est un peuple, sa manière d'être, sa tradition et sa façon d'effectuer la conscience humaine. Et ce phénomène est unique dans le monde et dans l'histoire humaine. Par conséquent, si nous trouvons effectivement que tel ou tel grand homme des nations pense comme ça, mais nous sommes très contents pour lui, pas bien évident, mais ça fait pas de problème. Vous savez, du point de vue de la méthode de cette question, le grand Ben-Eli Ben-Amosé, qui a écrit Israël et l'humanité, vous avez certainement entendu parler de lui, qui était le grand penseur juif du siècle dernier, le grand Ben Livourne, vous avez entendu parler de Ben-Amosé, je suppose. Bon. Eh bien, à traiter de cette question dans la préface à son grand livre qui s'appelle Israël et l'humanité, il dit à peu près de la façon suivante. Il dit, bien évidemment, nous trouverons chez Confucius telle perle de sagesse, chez Lao Tse telle autre, chez un tel autre, chez Socrate telle autre, chez Platon telle autre. Seulement voilà. La tradition d'Israël, c'est pas ou monsieur un tel, ou monsieur un tel, ou monsieur un tel. La tradition d'Israël, c'est la tradition d'un peuple. Et dans cette tradition d'un peuple, eh bien, on trouve toutes ces perles, et même le fil pour faire le collier. Vous comprenez, il n'y a aucune commune mesure. C'est ça le fond du problème. On n'aborde pas, vous comprenez, les livres de la tradition juive comme on étudie la thèse de tel auteur ou la thèse de tel professeur. On aborde là la carte d'identité de la conscience d'un peuple. Et d'un peuple qui, depuis 4000 ans, tente de réussir son identité. Et comme vous le savez, l'histoire juive n'est pas simple. Parce qu'il y a eu, en tout cas pour le problème qui nous occupe, à partir d'un certain moment, il y a une opposition grave, pas, entre les deux options de conscience qui se partagent, les choses qui importent, et qui est l'option de conscience hébraïque et l'option de conscience grecque. Pas.
C'est une supériorité numérique.
J'ai pas parlé de supériorité.
Non, vous dites, on trouve tel ou tel homme Confucius, mais on trouve tout le peuple juif qui soit.
C'est une différence de nature. Je sais bien que c'est pas facile à intégrer immédiatement, pas. Une pensée qui soit la tradition d'un peuple, d'une manière d'être homme, n'a rien à voir, c'est incommensurable, avec telle ou telle doctrine d'école. Vous comprenez, c'est en cela que le phénomène Israël est inassassinable. Le phénomène Israël est inassassinable parce qu'il ne s'agit pas d'individus qui se mettant en plus ou moins grand nombre ensemble, font un mouvement, un parti, ce que vous voudrez, pas une école. Non, c'est pas ça, c'est un peuple. Et c'est un peuple 4 fois millénaire. Je sais pas si vous en avez pas moi ça. C'est un phénomène massif, ça, énorme. C'est ça qu'il faut arriver à réintégrer.
Oui. À propos d'existentialiste, on parle assez souvent de Martin Buber. Est-ce que sa pensée se rattache à la tradition authentique, à la sociologie authentique?
C'est là que vous me posez une question indiscrète. Pas. Enfin, on dit sous forme de blague que Martin Buber c'est de l'existentialisme sur un Nigun Chassid. Enfin, Martin Buber c'est Martin Buber. Enfin, on pourrait dire à la limite le judaïsme sans Martin Buber, on se porterait tout aussi bien. Mais enfin, je sais pas, la question que vous me posez, ça dépasse ma compétence. Voilà. Alors, nous allons maintenant voir comment le texte biblique lui-même va nous décrire ce passage, les deux stades, ben, au niveau ontologique même. Eh bien, la remarque importante qu'il faut faire, c'est que dans le récit de la Genèse, Dieu comme créateur cesse son intervention de créateur dès le moment précis où l'homme apparaît dans le monde. Alors je vais vous donner les références. Ça vous aidera effectivement, c'est pas indispensable, mais enfin ça vous aiderait d'avoir un texte pour suivre ça sur le texte même. Voilà, nous sommes dans le récit à la fin du sixième jour de l'organisation du monde. Et à la fin du sixième jour de l'organisation du monde, l'homme apparaît dans le monde. C'est Vayirel et Vayiboker Yom Hashish. Alors Vayikulu Hashamayim Va'aretz. Alors vous relirez donc le verset 31 du chapitre 1. Et ce fut soir, ce fut matin du sixième jour. Mais quel est ce sixième jour? La dernière création qui est faite, c'est l'homme. Hein? Et puis vous relirez le verset 3. Non, pardon, déjà le verset 2 du chapitre suivant. Vaicha Elokim Vayom Hashbi'i, Melarto Asher Asa, Vaishbot Vayom Hashbi'i, Mikol Melarto Asher Asa. C'est-à-dire, la cessation de l'intervention de Dieu dans le monde, créée à l'origine, mais organisée pendant les six jours, cesse comme telle, je dis bien comme telle, hein, dans l'instant où l'homme apparaît dans le monde. Que se passe-t-il? Eh bien, le monde est suffisamment transformé pour qu'il puisse être le lieu d'habitation de l'homme. Dès qu'il en est ainsi, l'homme apparaît et l'histoire de l'homme commence. Pour que l'histoire de l'homme soit possible, le monde devient la nature, à cet instant précis. Et par conséquent, se fixe dans l'état des choses où il lui est arrivé d'être depuis l'origine jusqu'à ce moment-là. C'est le sens hébreu du mot qui traduit le concept de la nature, que la question que vous m'avez posée. C'est le mot teva. Le mot teva, tet bet aim, vient d'une racine qui veut dire sceller, apposer un sceau. Hein? Matbear, c'est un sceau. Hein? Ça veut dire que la façon d'être du monde, telle qu'au moment où suffisamment préparé l'homme peut apparaître, se fixe dans cet état. Et par conséquent, nous avons donc l'articulation de nos notions, la création, s'habituant à être ce qu'elle devient, de telle sorte que le monde puisse être l'habitation de l'homme, dès que l'homme apparaît, elle se fixe dans son état où elle était devenue. Bon. Mais rappelez-vous la nuance de tout à l'heure. Ce processus n'affecte pas de la même façon tous les niveaux de l'être. C'est-à-dire, nous sommes plongés finalement situés dans un monde qui, de la périphérie la plus extérieure, si vous voulez, au centre le plus intérieur, est de moins en moins nature, de plus en plus création, ou de moins en moins création, de plus en plus nature. Et l'homme est l'être, c'est une donnée de base de la pensée juive, l'homme est l'être qui récapitule dans son être l'ensemble de ce processus. Un pôle de lui-même, il est tout entier liberté, qualité et création pure. À l'autre pôle de lui-même, il est tout entier quantité, détermination et nature pure. Vous comprenez? Bon. Et effectivement, il est extrêmement intéressant de voir que c'est précisément dans ce résumé d'identité qu'est l'homme et qui est une expérience à notre disposition, puisque c'est nous-mêmes, hein, que se trouve décrite l'identité réelle du monde. Je vous donne tout de suite un exemple de ces deux niveaux intérieurs l'un à l'autre. En vous prenant, si vous voulez, une des règles de la sagesse juive. Hein, tant qu'une parole se prépare, elle est donc pensée, intention, eh bien, elle n'est pas considérée comme acte. Mais dès qu'elle a été émise, elle est considérée comme acte. Et passible de jugement de valeur, etc. Bon, ça signifie que dans la vie intérieure, où notre être est encore plus création que nature, hein, eh bien, les choses ne sont pas soumises à une détermination absolue. Il y a possibilité de telle manière, telle autre manière, telle autre manière. Mais à partir du moment où cette pensée a été exprimée en parole au niveau nature de notre être, hein, le discours émis, à ce moment-là, elle est soumise à la détermination et donc au jugement de l'autre. Vous voyez ? C'est-à-dire, dans notre propre identité, nous avons expérience à la fois de l'un et de l'autre. Paul, que ces deux notions expriment. Alors, ça vous fera comprendre, d'autre part, cette notion très habituelle à la pensée juive, mais qui est très traditionnelle dans l'ensemble des traditions anciennes, que l'homme est un univers en miniature, comme on dit, mais que c'est l'homme seul qui récapitule en lui à la fois le fait d'être liberté pure comme la création et détermination pure comme la nature.
Marshava,
c'est l'intention, le vecteur, la direction qui est donnée à ce Hirou. Mais dans le Hirou, il y a Shikulda, comme on dit. Le fait de peser le pour et le contre. Vous savez, je ne suis pas encore décidé à dire ou ça ou le contraire ou quelque chose qui... Vous savez, tout ça est encore dans le monde, si vous voulez, brillant. Vous comprenez ce que je dis. Mais à partir du moment où c'est émis, au niveau de l'émission du discours, alors c'est considéré comme... Ah, ça vous éclaire un certain nombre de... d'enseignements propres à ce sujet.
Et Marshava, c'est déjà déterminé.
Comment ? Qu'est-ce que vous appelez déterminé ?
Au niveau de Marshava, est-ce que la détermination est déjà réalisée ?
C'est-à-dire, il y a un certain nombre de pensées, si vous voulez, pour traduire ce terme, qui, en tant que pensées, sont considérées comme des actes. Hein? Mais je vous ai parlé essentiellement d'une parole qui se prépare. Hein? Alors qu'elle est encore, si vous voulez, sous forme de pensée dans la vie intérieure, elle n'est pas soumise au jugement de valeur. À partir du moment où elle est émise, alors elle est déterminée, de la manière dont elle a été déterminée. Bien entendu, le jugement de valeur ne porte que sur quelqu'un de lucide. Hein?
C'est pas l'expression qui marche avant qu'on marche.
Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Mais par exemple, il y a des commandos qu'on peut faire par marche avant.
Oui, par conséquent, écoutez, par exemple, vous avez le commandement, tu ne convoiteras pas. Bon, alors c'est pas nécessaire de parler pour convoiter. Il y a donc une intention de la convoitise qui, en tant qu'intention, est un acte.
Est-ce que ça veut dire tu ne convoiteras pas au sens français du mot, est-ce que ça veut dire tu ne mettras rien en œuvre pour, etc.
Alors non, dès l'intention. La halakha, c'est dans la mahashava, c'est le tahmoud. Il n'y a pas de problème.
C'est pas pour l'autre, il savait que c'est l'intention.
Non, déjà le tahmoud. Le monde intérieur est encore dans du domaine de la liberté. À partir du moment où cela est émis, bien, c'est la liberté qui s'est réalisée, mais l'acte devient soumis à une détermination du jugement de valeur, notamment. Hein?
Précisément, vous comprenez pas exactement comment notre monde intérieur peut être le domaine de la liberté, puisque notre monde intérieur dépend de l'ensemble des phénomènes matériels qui se produisent autour de nous, de nos conditions.
Évidemment. Vous soulevez là un problème extrêmement important, c'est-à-dire il est bien évident que l'ensemble de cette identité humaine représente dans l'ensemble un conditionnement, où une chose réagit sur l'autre. Pensez bien que notre vie intérieure en tant que libre libère notre corps déterminé. Le corps d'un être vivant éveillé, c'est pas la même chose que le corps d'un cadavre ou que d'un être endormi. Hein? Inversement, la détermination de notre corps conditionne la liberté de notre vie intérieure. Ce qu'il faut découvrir, c'est que, en tant qu'identité humaine, nous sommes finalement plus ou moins conditionnés, plus ou moins libres. Ça, c'est un phénomène, un fait d'assaise individuelle qui nous assure soit une plus grande liberté, soit nous condamne à un plus grand conditionnement. Vous voyez, il est bien évident que, étant donné cette identité humaine ainsi décrite, il est bien évident que nos actes sont en général quasi-libres et quasi-déterminés, hein, et que, à la limite, hein, le monde de chacun est à un niveau absolument différent de cette espèce de compromis entre liberté. Je crois qu'on peut dire que nous vivons dans un temps où il semble que les hommes sont beaucoup plus conditionnés que libres, hein, et que, effectivement, c'est probablement le résultat d'une espèce d'acquiescement de la conscience humaine à l'idée que seule la catégorie du déterminisme est réelle, est vraie. Il y a une sorte de, si vous voulez, de perte de liberté intérieure qui est le résultat d'une certaine éducation. À partir du moment où l'homme habitue à polariser sa conduite sur cet axe de connaissance que seule la détermination est réelle, alors il devient déterminé. Je vous donnais tout de suite un exemple dans le texte biblique. Il y a un conditionnement qui résulte de la croyance au conditionnement. C'est le propre de la liberté de se perdre. Et il est bien évident que nous semblons être en plein dans une ère où le conditionnement est au maximum. Vous voyez ces inquiétudes des penseurs de type le meilleur des mondes. Déjà Bergson avait vu le problème, l'humanité risquant de devenir société d'insectes, société fonctionnelle, et qui a essayé de réagir par une œuvre beaucoup plus éducative que scientifique d'ailleurs. Bergson a essayé de se faire éducateur de l'héroïsme romantique pour rééveiller de nouveau la conscience humaine à sa liberté, parce qu'il voyait que le cheminement de l'intelligence menait à une fossilisation de l'élan vital. Je vous donnerai donc tout de suite cet exemple. C'est un exemple classique dans le récit biblique. Vous vouliez poser une question?
Alors, en essayant d'imaginer un monde où le conditionnement de cette idée serait beaucoup moins important, qu'est-ce qu'on pourrait appeler liberté intérieure?
C'est-à-dire, ce qui apparaîtrait, c'est que la vie intérieure serait libérée. La vie intérieure serait véritablement libre et pas encombrée par tout ce qui fait le propos, notamment, de la psychanalyse. Libéré de son propre conditionnement. Le fait que les motivations de la conduite seraient réellement sui generis et non pas le résultat d'un conditionnement imposé par l'extérieur. C'est-à-dire que la liberté serait efficace, serait effective. Lorsqu'on fait le bilan réel de la situation de l'identité moyenne de l'homme aujourd'hui, il est bien évident que seule notre volonté, encore faudrait dire notre velléité, est libre, mais que notre vouloir n'a aucun pouvoir. Parce que nous sommes effectivement dans un acquiescement au conditionnement qui finalement envahit l'intimité même de notre vie intérieure. Et effectivement, c'est l'exemple que je vais vous citer qui l'illustre, et effectivement, l'acquiescement au conditionnement conditionne. Et voici cet exemple. C'est l'exemple des fameux rêves du pharaon. Vous vous souvenez de cela dans le texte biblique, ça c'est très connu, où le pharaon a deux rêves de suite, n'est-ce pas, qu'aucun des sages de l'Égypte n'arrive à interpréter, alors que Joseph les interprète. Ses rêves, c'est qu'il voit des vaches grasses, finalement des vaches maigres arrivent et avalent les vaches grasses. Ensuite, il voit des épis dorés, et puis ensuite des épis secs viennent et avalent les épis dorés. Et puis, aucun, nous dit le Midrash, et nous voyons bien du texte biblique, aucun des sages de l'Égypte n'arrive à donner au pharaon une interprétation de ses rêves qui le satisfasse. Et puis Joseph arrive, et puis avec une facilité enfantine, interprète les rêves. Seulement d'ailleurs, quand on prend connaissance du texte, quelle est vraiment cette énorme sagesse de Joseph. N'importe qui. Bien sûr, nous savons comment il a expliqué, alors on expliquerait comme lui. Mais enfin, quand même, il ne semble pas que ça soit tellement difficile d'expliquer comme Joseph a expliqué. Bien sûr, nous sommes encombrés de toute une phraséologie de style biblique, les vaches grasses, les vaches maigres, et que ça signifie ça et pas autre chose. Bon. Mais il y a une clé dans le texte de la Bible, c'est que à ce moment-là, on appelle Joseph l'hébreu. C'est-à-dire qu'il se trouve, lui, hébreu, avec son identité propre et sa mentalité propre, devant un système de pensée qui exclut, par son conditionnement même, la possibilité de la vraisemblance de l'explication seule vraie que Joseph donne. Et pour ça, il faut rappeler ce qu'a été, panoramique si vous voulez, ce qu'a été la conception du monde des Grecs et de la civilisation grecque, telle que nous la connaissons d'après les textes juifs. Eh bien, c'était un paganisme, enfin une religion, qui était basée sur un principe que les historiens de religion ont fini par mettre en évidence, qui s'appelle l'astrobiologie. L'astrobiologie, c'est une sorte de conception religieuse païenne, qui considère que les formes de la vie sont soumises aux influences des arts. Et il y avait toute une énorme science théologique égyptienne élaborée sur ce principe. Pas les Égyptiens seuls n'ont pensé comme cela, toutes les civilisations de l'Antiquité étaient basées sur le même modèle. Et c'était, si vous voulez, cette influence de l'univers comme monde de nature sur l'être vivant qui était symbolisée par les statues qui étaient le pivot de leur liturgie. Vous pensez bien que les Égyptiens n'adoraient pas la statue d'un bœuf, ils adoraient ce que ça représente. Si vous voulez, ils avaient une sorte de système liturgique d'analogie des constellations avec les formes vivantes, et puis ils avaient identifié telle constellation, c'est-à-dire telle manière d'être du déterminisme sur l'être vivant, et telle forme de la vie comme réceptacle privilégié de telle forme de conditionnement. En gros, l'essentiel même de l'astrologie. Or, là, c'est dire, en d'autres termes, si vous voulez, que la pensée des Égyptiens était déterministe. Exactement à la manière de la mentalité moderne, avec en plus toute une imagerie symbolique et liturgique extrêmement riche, extrêmement dense, dont l'homme moderne est incapable. Mais enfin, dans l'essentiel des choses, c'était exactement la même conception. Et par conséquent, les sages de l'Égypte ne pouvaient pas penser un dérèglement du conditionnement naturel de l'économie de l'Égypte qui expliquerait l'inquiétude, la préoccupation, l'intuition qu'a eu le pharaon dans son rêve. Puisque, comme vous le savez, en fin de compte, leur divinité, c'était leur divinité pivot, c'était la divinité régulatrice de l'économie égyptienne, c'est-à-dire le Nil. Et puis, vous pensez bien qu'ils n'adoraient pas le fleuve. Ils adoraient le principe de régularisation des phénomènes économiques. Et par conséquent, qu'il y ait un règlement dans labourage et pasturage, c'est-à-dire les troupeaux et les récoltes, c'était impensable. Ils avaient leur plan de 7 ans en 7 ans par rapport aux crues du Nil, et l'idée qu'il pouvait y avoir bouleversement du Nil nourricier, si vous voulez, de l'économie égyptienne, était une idée hétérodoxe dans l'orthodoxie égyptienne. Vous comprenez? Si un sage avait osé penser comme Joseph, on l'aurait fait passer en procès de Staline. Parce que c'était hétérodoxe, vu le système de conditionnement de la pensée des Égyptiens. Et il en résulte que l'Égyptien comme tel, dans son identité, enfin l'Égyptien du temps de la Bible, est devenu l'être conditionné. L'acquiescement à la croyance au conditionnement absolu conditionne. Et c'est pourquoi d'ailleurs le texte biblique appelait l'Égypte la maison des esclaves. C'est ce que les commentateurs mettent en évidence à propos du premier verset des 10 commandements, qui vous est fait sortir du Bet Abadim, de la maison des esclaves. Ça ne veut pas dire la maison où vous étiez esclave, la maison où les habitants étaient esclaves. Et vous étiez esclave d'esclaves. C'est pire. asservi à des esclaves, asservi à des êtres conditionnés. Et je crois que il n'est pas difficile de déceler par analogie, enfin très 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 approximative, que inévitablement cette espèce d'option intellectuelle du conditionnement astrobiologique, en termes modernes, ça veut dire de la détermination des phénomènes économiques sans tenir compte du facteur humain, finit par conditionner l'homme. C'est l'exemple que je voulais vous citer et qui montre quel est ce processus.
Oui, mais lorsque c'est une chose, c'est-à-dire que lorsque même on n'inquiète pas à ce conditionnement, les facteurs économiques, ou lorsque même on parle...
Les facteurs économiques, c'était un exemple. Oui, enfin, bien sûr que les facteurs économiques conditionnent, n'est-ce pas?
Lorsque même on pense les facteurs humains, simplement, ou lorsque même on ne pense pas du tout une détermination, on est tout de même extrêmement déterminé, et par le fait même que...
Conditionné. C'est pas la même chose. Écoutez, je vais essayer de vous donner un...
Alors, s'il y a une opposition, il peut y avoir d'opposition entre liberté
et détermination. Bien sûr.
Bon, mais par
contre... La différence entre la notion de détermination et la notion de conditionnement est la suivante. La notion de détermination supprime la liberté. À une équation donnée, il n'y a que cette racine. C'est ça la détermination. Mais le conditionnement laisse toute une marge de possibilité de réaction. Or, plus on s'élève dans l'échelle des êtres, de l'être quantitatif pur, qui est l'être mathématique. Et puis, pour arriver à l'être qualitatif pur, qui est l'être psychique, et plus on passe de l'ère du déterminé pur à l'ère de la liberté. Et puis, il y a tous les degrés de conditionnement. Si vous voulez, par exemple, le phénomène biologique est moins déterminé que le phénomène physique. Il est conditionné, mais il échappe déjà un peu à la détermination absolue. C'est-à-dire que, si vous voulez, un stimulus donné, un organisme vivant réagit de différentes manières possibles. Il y a conditionnement, mais il n'y a plus déjà détermination absolue. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je crois quand même qu'un être libre est un être qui n'est déterminé que par lui-même.
Ça, c'est une option philosophique.
Non, mais alors, je ne comprends plus du tout ce que vous avez dit.
Dire que être libre, c'est être déterminé que par soi-même, c'est une contradiction dans les termes. Si on est déterminé par soi-même, on n'est pas libre. Il y a une contradiction dans les termes, dans ce que vous avez dit.
Enfin, c'est uniquement ainsi, je crois, qu'on peut poser la notion de liberté.
Mais non, vous comprenez, vous êtes encore, dans une catégorie où c'est la détermination qui est le critère. Alors vous dites... Être libre, c'est être déterminé par soi-même. C'est une contradiction dans les termes.
D'accord, je veux bien, mais à ce moment-là, de comprendre la liberté telle que le pense la religion hébraïque, je dois savoir de quelle manière la religion hébraïque pense la liberté.
La liberté, c'est pouvoir se mettre en mesure, c'est-à-dire se déconditionner, pour se mettre en mesure de se conduire selon la vérité. C'est ça la liberté. Mais ça ne veut pas du tout dire être déterminé par soi-même. C'est autre chose. Écoutez, énormément de choses, mais enfin, votre question est à sa place quand même. Enfin, faites attention quand même à l'emploi des catégories. Qu'effectivement, notre monde intérieur soit conditionné, c'est vrai, mais l'expérience de la condition, du conditionnement, pardon, et l'expérience de la détermination, c'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Vous comprenez, c'est dommage que qu'on ne puisse pas utiliser les textes, mais il y a des foultitudes de textes qui s'organisent autour de ces notions. Je veux simplement vous conseiller d'ailleurs très fortement de lire le livre de M. Lépinas qui s'appelle « Difficile liberté » et où il a rassemblé un certain nombre de ses articles. Et vous verrez, enfin, l'atmosphère de ce qu'est la tradition juive dans des problèmes de ce genre. Il y a notamment un certain nombre de paragraphes extrêmement bien écrits qui concernent précisément cette question. Dès l'origine, l'homme tel qu'il est situé dans le monde, se trouvait placé devant une option, soit acquiescé à la détermination par la nature, c'est ce que la Bible appelle l'égoïsme, soit, au contraire, rompre cette détermination par la nature qui n'est là que comme moyen d'effectuation de la liberté et pouvoir réaliser sa véritable identité. Le sort historique dans l'histoire humaine d'Israël et des nations se trouve différencié radicalement sur ce problème. Je fais simplement une parenthèse en vue d'un problème que nous retrouverons par la suite. C'est exactement ce qu'on enseigne pour définir l'objectif de la pratique des commandements de la loi de Moïse. Enfin, la pratique des mitzvot, des commandements de la loi de Moïse, a pour objet général de briser cette détermination que la nature a sur l'identité humaine. Je veux dire que c'est une expérience que l'on peut décrire, identifier, mais qui est de l'ordre de l'expérience. Ça passe pas par les concepts. Seulement, nous voyons que ce terme de bracha, qui joue un rôle extrêmement important dans la problématique biblique, si vous voulez, et qui est d'ailleurs une des clés de la liturgie biblique, et ça va encore beaucoup plus loin, ça nous tient lieu de théologie tout entière. La preuve de l'existence de Dieu, c'est-à-dire pas la démonstration. La preuve de l'existence du Créateur, c'est l'expérience de la bracha, c'est l'expérience de la bénédiction. C'est-à-dire, l'option, si vous voulez, est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas, ne peut pas se formuler dans ces termes-là, dans la pensée juive. Finalement, l'option, elle est celle d'une expérience concrète.
Est-ce que j'éprouve? Est-ce que j'expérimente ce que dit la Bible, que le monde, c'est le lieu de la bracha ou pas? Si j'ai cette expérience, eh bien, c'est cela, avoir la connaissance que notre monde est bien comme la Bible le dit. Que Dieu soit caché, c'est un autre problème. Mais la bracha n'est pas cachée. Donc il y a un texte du Talmud qui dit « La bracha ne vient que sur une chose qui est cachée de l'œil. » « En bracha sholte de la bema she samud melaï. » Oui.
La bracha peut venir sur les choses et aussi sur les gens. Il faut parler essentiellement de la notion concevoir qu'elle existe, expérimenter qu'elle existe.
Oui.
Mais par ailleurs, est-ce qu'il est dit ou est-ce qu'on pense que des gens sont dépourvus de bracha et se résolvent dans ces conditions maudites?
Alors j'ai pris la précaution de vous dire qu'il est bien évident que l'expérience normale, c'est celle de la bracha. Et s'il y a privation d'eux, c'est considéré comme un incident. Et il faut prendre ce mot d'incident dans le sens fort. C'est arrivé que, et par conséquent, corollairement à cela, la Torah nous doit, ce qu'elle fait d'ailleurs, une explication. Bien entendu, que nous sommes dans un monde où tout n'est pas bracha, c'est bien évident. Si vous voulez, l'espérance, c'est que la quantité de bracha gagne et envahisse tout l'espace de l'existence. C'est bien sûr. Mais en tout cas, ce dont on nous avertit, c'est que ce qui est normal, c'est que le monde soit totalement béni. S'il ne l'est pas, c'est qu'il ne l'est plus. Ou, et donc, plus encore. Ou pas encore. Bien entendu, le cas anormal nécessite explication, élucidation, mais ce qu'il faut d'abord découvrir, si vous voulez, c'est le panorama général dans lequel ce problème s'inscrit. Or, il est bien évident, comme vous le savez, que les Juifs ont eu une histoire très malheureuse, pas ? Ils ont vécu pendant des siècles et des siècles dans un monde qui leur était maudit. Et cependant, vous savez, enfin, c'est quelque chose d'abominable. Vous vivez maintenant dans un siècle de liberté pour les Juifs. Enfin, plus que de liberté, une sorte de résurrection. Mais pendant des siècles et des siècles, la foi juive a tenu le coup sur cette, si j'ose dire, vous me passerez l'expression, enfin, sur cette conviction que, quelle que soit la plus petite quantité de bracha, à laquelle on peut se raccrocher comme expérience immédiate, c'est ça la preuve. Hein? Et que, vous voyez ce que je veux dire, hein? Enfin, on a vécu des temps où, par exemple, les seuls arbres qu'on voyait, c'est les arbres qu'il y avait dans les cimetières, ou des choses de ce genre. Et puis, cependant, cette connaissance ne s'est jamais perdue. Hein? En tout cas, c'est de ce type de connaissance-là dont il s'agit. Et je crois d'ailleurs qu'on peut dire que cette expérience, eh bien, elle est finalement, à l'échelle individuelle, elle est subjective. C'est-à-dire, pour telle ou telle personne, pour tel ou tel individu, elle est plus facile à expérimenter, elle est privilégiée dans le domaine des choses matérielles ou dans le domaine des choses spirituelles, et encore à tel ou tel niveau, ça dépend de la vie de chacun. Je veux dire que formellement, il est bien évident que c'est une expérience universelle et qui définit, selon la logique de la Bible, qui définit l'authenticité de la nature humaine. Hein? Mais bien entendu, à l'échelle individuelle, elle dépend de l'expérience, du paysage de chacun. Et je ne crois pas qu'on puisse la conceptualiser, en tout cas totalement, l'exprimer sous forme de pensée abstraite. Je ne crois pas en tout cas qu'une langue comme le français s'y prête. Mais on peut en tout cas la décrire pour désigner ce que l'hébreu pense dans ce terme. Il pense désigner cette expérience-là, c'est-à-dire l'expérience de la surabondance, qui est une expérience d'ordre religieuse. On expérimente là quelque chose qui déborde complètement le naturel, dans le sens le plus simple de ce terme. Et vous voyez comment va apparaître ce danger du paganisme. Il est bien évident qu'une conscience qui expérimenterait le fait de la bénédiction, quelle que soit la valeur, sur la valeur poétique, musicale, picturale, parce que imaginez une conscience vierge devant, ou virginisée, devant un coucher de soleil, ça éclate. Il y a une surabondance de valeur qui est d'un autre ordre que la nature, mais tout de suite risque de paganisme. C'est-à-dire risque d'une perception non authentique de ce qu'est la bracha. Comme nous allons le voir, ça va dépendre des catégories de la moralité, puisque c'est évidemment étroitement relié à la notion de départ.